surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3 pour un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité en ce jeudi 13 janvier 2021. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro comme à l'habitude et j'ai l'honneur, le plaisir et l'extrême privilège d'être en compagnie d'Adam Marginet-Nouplante ce jeudi. Salut Adam, comment tu vas?
Ça va très bien, toi-même Guillaume.
Ça va. Écoute, aujourd'hui, on a quand même une belle journée d'actualité en perspective. On va parler beaucoup de pandémie, d'actualité coronavirale. Ça, c'est sûr et certain. La cinquième vague, la vague Omicron, continue de faire des ravages un petit peu partout au Québec. On a encore des augmentations dans le nombre d'hospitalisations. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on en parle. C'est quoi les nouvelles mesures qui ont été annoncées? Qu'est-ce qui va se passer lors de la rentrée des classes qui a été confirmée pour lundi prochain? On va également parler de la taxe Taouin, la taxe anti-vax, la contribution santé qui continue de faire polémique un petit peu partout, non seulement au Québec, mais également à l'international. On va aussi parler un petit peu plus de politique québécoise. L'élection générale s'en vient à grands pas, ça commence à se sentir, mais également de politique municipale à Québec. L'opposition officielle commence à s'organiser un petit peu. Donc, on parle de tout ça et bien plus sur à Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. Mais avant toute chose, Adam, on va se faire un petit peu plaisir. On va écouter une chanson qui est un petit favori. On va aller écouter Les Amants de Pompéi de Thierry Larose et on vous revient tout de suite après. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en compagnie d'Adam Marginianouplante. On s'en va en actualité coronavirale. On commence tout de suite avec les chiffres du jour. Dans les 24 dernières heures, le Québec déplore 45 nouveaux décès, une nouvelle augmentation des hospitalisations. Donc, on a 117 hospitalisations supplémentaires, 9 hospitalisations supplémentaires aux soins intensifs. On a donc... Et on n'a pas le nombre d'infections supplémentaires à la COVID-19 parce que, on le rappelle, on manque de tests PCR, on manque de tests en laboratoire pour être capable de détecter toutes les infections à la COVID-19. Donc, on ne fait que tester le personnel médical ainsi que les personnes dans les hôpitaux. Donc, tout ce qu'on remarque présentement, c'est une hausse encore du nombre d'hospitalisations et du nombre de personnes aux soins intensifs. On a un peu moins de décès que ce qu'on avait plus tôt dans la semaine, mais ça reste énorme, vraiment 45 décès. Chacun d'entre eux est une tragédie. Faut le souligner. Il y a une vieille statistique de, si je ne me trompe pas, c'est Staline qui dit qu'un décès est une tragédie et un million est une statistique. On va essayer de ne pas rendre chacun de ces décès-là une statistique.
Étrangement sensible pour Staline, j'aimerais mettre un petit point virgule.
Oui, effectivement. Mais je pense que c'était une justification pour les goulags.
Voilà, d'accord, OK.
Voilà, donc oui, non, étrangement sensible. Il y avait un contexte autour de ça. Le point, c'est surtout qu'on est en hausse vraiment des hospitalisations. C'est ça, la grande nouvelle. On est rendu à 2994 hospitalisations. On n'a pas encore passé le cap des 3000 hospitalisations, mais ça s'en vient d'une journée à l'autre. On n'a pas les capacités hospitalières pour gérer tout ça. C'est ça le gros problème en ce moment. On le dit depuis le début de la semaine, le délestage de niveau 4, qui est le plus haut niveau de délestage au Québec, qui avait été réfléchi, eh bien, ce niveau de délestage-là n'est plus suffisant. On dépasse ça énormément. En plus du fait d'avoir... Donc, on essaye de trouver toutes les manières pour ouvrir des nouveaux lits. Mais même si on ouvre des nouveaux lits, on a présentement 20 000 personnes dans le réseau de la santé qui sont en congé maladie, que ce soit à cause d'un burn-out ou à cause de la COVID-19. Donc, c'est sûr qu'avec 20 000 personnes de moins dans le réseau de la santé, mais ça avance un petit peu moins bien. Hein? Donc, le navire est là, mais le navire manque de bras. On a une bonne nouvelle, par contre, là-dessus, aujourd'hui. Le gouvernement du Québec a conclu une entente pour l'achat de 70 millions de tests rapides. Donc, c'est MedSup Médical qui va fournir 70 millions de tests rapides d'ici à la fin du mois de mai. On a 10 millions de tests prévus d'ici la fin janvier, ce qui veut dire donc 2 millions de boîtes, 2 millions de foyers québécois qui vont avoir accès à ces tests rapides. On se rappelle que la dernière livraison de tests rapides au Québec, c'était une livraison qui avait permis à 600 000 foyers seulement au Québec d'avoir accès à ces tests rapides-là, qui sont une denrée rare et se sont envolés en quelques heures à peine dans les pharmacies. Quand on sait qu'on manque de tests en laboratoire, ces tests rapides-là, ils sont particulièrement utiles. C'est le seul moyen qu'on peut avoir présentement au Québec pour être capable de se dépister si jamais on pense qu'on a des symptômes de la COVID-19. Donc, ils sont quand même assez essentiels dans ces tests-là, ces tests rapides-là.
Ben, je sais pas. J'ai l'impression que le message avec les tests rapides est un petit peu confus dans le sens où, avant le Noël, c'était comme tout le monde s'est garoché pour en avoir parce que c'était comme le billet vers un Noël sans culpabilité où est-ce qu'on allait pouvoir se faire des câlins en toute tranquillité d'esprit. Mais on dirait que, je sais pas, j'ai l'impression que les bémols et les astérisques ne font que s'ajouter par rapport aux tests rapides dans le sens où, ah, ben, si vous êtes négatif, c'est peut-être pas 100% un vrai négatif, puis si vous êtes positif, vous devez aller faire un test PCR de toute façon. Donc, je veux pas, cracher dans la soupe, là, mais c'est le fun, c'est une belle nouvelle. C'est tant mieux si on va pouvoir avoir accès à ça, surtout pour les enseignants puis les parents d'enfants qui vont à l'école. C'est une bonne idée. On a-tu le rhume ou est-ce qu'on se met en isolement toute la famille pendant la période recommandée? Mais en même temps, s'il n'est pas là, le nerf de la guerre là, en ce moment, là, c'est pas ça le problème. Là. Je pense que ça déborde de partout et l'idée des tests rapides ne. Ça vient aussi un peu mélanger les statistiques qu'on a par rapport au nombre de personnes atteintes de la COVID-19. Moi, oui, je le vois un peu comme ça.
On a juste plus les statistiques du nombre de personnes atteintes de la COVID-19.
Fait que, bonne nouvelle, point d'interrogation un peu pour moi, parce que c'est tant mieux, ça va être pratique, ça va faciliter la vie de beaucoup de gens, mais en même temps, sur un point de vue plus global, ça vient un peu flouter notre impression réelle de ce qu'est la situation virale.
Oui, mais est-ce que je viens d'avoir l'idée, là, fait que je te pose la question, est-ce que ce flou-là par rapport à la situation virale, ça va pas donner encore plus de marge de manœuvre aux politiques par rapport aux scientifiques dans la prise de décision gouvernementale, dans la prise de décision par rapport aux mesures sanitaires à appliquer?
Ben, j'ai l'impression que plus c'est flou, plus les scientifiques se donnent une petite marge de manœuvre, dans le sens où ils disent « Ah, ben, on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas décider de tout ça », alors que plus c'est flou, plus les politiciens sont à l'aise. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, puis je pense que ça peut en effet contribuer à laisser plus de place à la décision politique qu'à la vie. Mais bon, on a un nouveau directeur de la santé publique, on pourra en rediscuter, puis voir un peu. Moi, je pense que l'attention science-politique, c'est un peu l'enjeu. L'enjeu, j'ai l'impression que ce sera peut-être l'enjeu des élections. Ça, c'est moi qui pitch mon petit bout de papier dans le chapeau. Mais je pense que c'est clairement un enjeu de société important comme en début de troisième année de COVID-19.
C'est en mars.
En COVID-22, là, je pense que c'est ça l'enjeu. Là. La science puis le politique, comment est-ce que ça discute? Puis qui est-ce qui a le dernier mot? Et est-ce que la science est toujours la science telle que, je sais pas, Platon l'imagine, là, t'sais, la vérité qui descend des cieux et sans aucun filtre?
Voilà. Merci de me tendre la perche. Oui, on va parler du successeur du docteur Arruda parce que le docteur Arruda a démissionné de son poste de directeur national de la santé publique du Québec lundi après-midi en donnant sa lettre de démission au premier ministre. Il reste sous-ministre adjoint à la santé, mais pour l'instant, il se prend des vacances qui sont probablement bien méritées. Il a probablement bien besoin de se reposer après 22 mois de travail 7 jours sur 7.
De manière plus cynique, je dirais que c'est peut-être aussi des vacances diplomatiques, dans le sens où il réorganise ses cartes peut-être pour la suite, puis voir où est-ce qu'il se situe, tu sais.
Oui, effectivement. Le gouvernement a nommé au pied levé un successeur, donc un directeur national de la santé publique du Québec par intérim. Ce sera à voir s'il sera ou non reconduit dans ses fonctions de manière permanente. Il s'agit de Luc Boileau, qui était directeur de l'INE 3S, l'Institut national de l'excellence en santé et services sociaux. Il est déjà un peu entouré par la controverse, justement, dans ce que tu disais, Adam, l'espèce de tension entre politique et scientifique.
Moi, j'ai une première question, Guillaume, puis tu y vas comme ça, tu la prends comme tu le veux, mais cette nomination par intérim, là, c'est pas un peu un cas de prendre une poignée de pâte puis sacrer ça sur le mur, voir si ça colle, dans le sens comme, ils font pas juste essayer de tenter, voir c'est quoi l'opinion publique, ce serait quoi la réaction face à ce monsieur-là, puis comme, comment est-ce que les gens vont le prendre? Comme...
Oui, effectivement.
Oh, prend, mais on va peut-être pas le garder.
Non, mais c'est la procédure habituelle, mais okay. Moi, ça me fait penser, j'en discutais plus tôt cette semaine avec un autre de nos collaborateurs, Félix Etienne, on faisait le parallèle avec Dominique Ducharme, qui a été nommé coach du Canadien par intérim.
C'est juste ton siège éjectable, on voit le gros piton juste à côté.
il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, fait qu'il est plus par intérim, mais c'est M. Boileau qui a son siège, qu'il voit le gros piton du siège éjectable, et c'est ça le problème, justement, présentement, c'est que probablement qu'il va se faire éjecter s'il commence à être un peu trop en désaccord avec le gouvernement. On sait également que sa fille est attachée de presse du ministre de la Santé, ce qui, bien que ce ne soit pas fait directement un conflit d'intérêts. C'est une apparence de conflit d'intérêts assez flagrante. Il a également dit lors de sa première conférence de presse en tant que directeur national de la santé publique que ce n'était pas sa job de donner des avis sur tout ce que le gouvernement faisait en relation avec la pandémie. Et pour l'instant,
C'est pas factuellement faux, mais c'est plus le message politique lié à ça. C'est un peu, écoute là, moi j'ai pas besoin là de, je sais pas. C'est juste, c'est peut-être un. Moi, je vais y mettre un, donner la chance au coureur pour dire que c'est peut-être une erreur de communication là.
Oui, c'est peut-être une erreur de communication, mais.
Mais ça paraît mal.
Ça paraît mal. Il part avec deux prises, trois balles, deux prises du côté de ceux qui veulent plus de distance entre politique.
Il me semble que c'est beaucoup de gens.
Oui. Beaucoup de gens et beaucoup d'opposants et d'opposants potentiels au gouvernement Legault. Surtout que on se rappelle, et c'est toi qui le rappelle toujours, Ada, dans nos discussions, l'article 1 de la Charte de la Coalition Avenir Québec, ça reste que c'est un parti dirigé par François Legault qui a dans ses valeurs l'éthique et la transparence.
Oui, puis ça fait un peu, tu sais, comme quand le vérificateur général s'acharne, la vérificatrice, pardon, s'acharne sur le cas du ministre Fitzgibbon. Puis qu'on a des histoires de même, c'est juste comme.
Ouais,
comme disent les Anglais, yikes!
Yikes! Cringe, comme disent les jeunes également. mais bref, pourquoi est-ce qu'on parle de M. Boileau aujourd'hui? C'est parce qu'il a donné son feu vert au gouvernement pour l'ouverture des écoles le 17 janvier. Donc, dès lundi, les écoles vont pouvoir ouvrir au Québec, vont pouvoir ouvrir leurs portes. Il dit cependant être attentif à la ventilation dans les écoles. Il a dit qu'il faudrait peut-être moderniser les avis scientifiques qui ont déjà été émis par rapport à la piètre qualité de la ventilation dans les écoles. Donc,
encore une fois, je lui donne toute la latitude pour que ce soit une erreur de communication. Mais j'aime pas votre science, pouvez-vous me la moderniser? Ça sonne pas super bien à mes oreilles.
Non, moi non plus, ça sonne pas particulièrement bien. Et c'est également la réaction qui est très, très forte du côté des syndicats. Adam, c'est toi qui as regardé ça un petit peu plus en profondeur.
Oui. Mais
j'ai ici une citation du président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, Éric Gingras, qui nous dit « Alors qu'il existe un consensus scientifique clair selon lequel le virus se propage notamment par aérosol, comment se fait-il qu'on soit toujours à jouer à l'autruche? Le ministre en est encore à annoncer l'installation prochaine des lecteurs de CO2 et à dire d'ouvrir les fenêtres alors qu'il faudrait procéder d'urgence à l'installation d'échangeurs d'air et d'unités portatives dans les classes et des locaux où la qualité de l'air est déficiente. » Une citation du président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras.
Ouais, mais tu sais, moi ici, j'ai l'entrefilet d'un article du Soleil qui s'appelle « Retour en classe lundi des syndicats tirent à boulets rouges sur Québec ». On a un gouvernement qui joue à l'apprenti sorcier et qui improvise au point de mettre à risque la sécurité des élèves et de leurs profs. Les principaux syndicats de l'éducation ne mâchaient pas leurs mots mercredi soir. Donc, oui, les profs sont pas full contents. Le consensus, c'est quelque chose qui ressemble à... On a... tirer la plug en urgence juste avant les vacances de Noël en disant rentrez chez vous, c'est dangereux. Et maintenant, on dit retournez à l'école, pas de N95, pas de changement substantiel au protocole de sécurité, impossibilité dans beaucoup de cas dans des classes surchargées de faire de la distanciation sociale, essentiellement avec un protocole allégé, mais dans la situation, il y a rien qui a changé. Fait que les profs sont juste comme « Attendez, vous êtes en train de me dire que c'est plus dangereux que jamais, mais qu'on devrait être plus slack que jamais. » Comme « What? » Et je les comprends d'avoir peur, parce que, tu sais, comme on l'a dit, le délestage, c'est aussi transposé vers le milieu de l'éducation, où est-ce qu'on coupe un peu comme on le veut dans toutes sortes de services aux élèves pour faire de la surveillance dans les classes.
Oui, effectivement, c'est une annonce. On n'en a pas encore parlé, mais on y vient. On a une annonce du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui va être faite, une conférence de presse à 15h. Si ça vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller suivre ça. Ça va être en direct sur sa page Facebook et également sur le canal de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un délestage qui est envisagé dans les écoles québécoises en raison d'un très grand nombre d'absences anticipées dans le réseau scolaire. Québec suggère aux écoles d'avoir recours à des parents volontaires pour surveiller des groupes d'élèves et envisage le délestage de certains services. Des informations de Daphné Dionvien du Journal de Québec, Journal de Montréal. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui a envoyé des lignes directrices sur lesquelles les directions d'établissement devaient se baser pour élaborer un plan de contingence déjà en prévision du retour à l'école lundi. Essentiellement, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de profs qui ne puissent pas enseigner simplement parce que ils sont contaminés avec la COVID-19. Et donc, pour ne pas avoir de l'enseignement à distance, le prof sera à distance, tous les élèves seront en classe et il y aura quelqu'un dans la classe qui sera chargé de maintenir l'ordre et la discipline.
Il y avait pas un film de science-fiction, je lance une perche, là, mais où est-ce qu'on disait avec les nouvelles technologies, il pourrait y avoir comme une conférence essentiellement dans comme toutes les classes alors que les élèves vont être seuls avec un robot ou quelque chose comme ça.
Oui, ça fait très rétro-futuriste.
Oui, ça fait rétro-futuriste, c'est ça, voilà.
Voilà, mais le problème, c'est que qui est-ce qui va s'occuper de cette surveillance-là? Il y a pas assez de monde. Si les profs sont malades, les surveillantes également sont malades.
Et aussi beaucoup d'entre traditionnellement, les gens qui se font de la surveillance en école primaire secondaire, c'est des personnes à la retraite qui n'ont pas intérêt à s'exposer plus que nécessaire à la COVID-19. Là.
Non, effectivement. Et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des parents volontaires qui pourraient le faire. On pense également utiliser le personnel de soutien, le personnel spécialisé, les orthopédagogues, les orthophonistes. Et c'est pour cela qu'on va délester ces services-là. Donc, services d'orthopédagogie, d'orthophonie, de soutien pédagogique pourraient être délestés pour être capables de continuer l'enseignement en classe. On apprend également que il n'y aura plus de mesures d'isolement généralisées. Même lorsqu'il y a plusieurs cas dans une même classe, un élève devra s'isoler uniquement s'il y a des cas à la maison. Parce qu'on dit que comme ils vont porter le classe en tout temps à l'école, le masque en tout le temps à l'école, c'est moins à risque. Toute cette combinaison de facteurs, je suis plutôt d'accord, je vais l'avouer, avec les syndicats. Ça a l'air d'être essentiellement un cocktail de mesures pour faciliter la vie des parents qui sont tannés de devoir gérer.
Absolument. C'est la priorité numéro un, puis c'est le leitmotiv à travers tout ce qui est annoncé ici. La priorité numéro un, c'est de sortir les enfants de leur maison, de les ramener le moins souvent possible, parce que... Puis je me demande, il doit y avoir des indicateurs sur lesquels le gouvernement se base pour prioriser ça plus au-dessus de beaucoup d'autres choses. Mais peut-être que j'ai pas lu l'actualité avec assez d'assiduité, mais ces indicateurs-là m'échappent pour l'instant.
Oui, ces indicateurs-là, j'ai l'impression que ce sont des sondages internes qui sont réalisés par la Coalition Avenir Québec, des panels.
Mais c'est quoi la question? Êtes-vous tanné de voir la face à vos enfants? T'sais, dans le sens que moi, j'imagine juste pour avoir été en contact à travers comme du bénévolat avec des parents d'enfants d'âge scolaire non vaccinés, donc des 12 ans et moins, là, qui sont en processus de vaccin. Beaucoup de parents sont mal à l'aise à l'idée d'envoyer leurs enfants dans des activités, même si c'est permis. T'sais, on dit pas de masque, c'est correct. Il y a des parents qui sont, mes enfants sont tannés d'être à la maison, ils aiment pas l'école à la maison, mais je suis certain, convaincu, qu'il y a des parents qui se disent, hey, c'est capoté, moi j'ai pas envie d'envoyer mon enfant dans une situation de risque comme ça, parce que, puis tu sais, il y a plein de raisons après ça qui sont leur choix, leur prérogative, mais tu sais, parce que je suis immunodéprimé, parce que sa grand-mère qui le garde quand moi je suis pas disponible est fragile, t'sais, pour plein de raisons, mais comme ça devient beaucoup de risques, là. T'sais, dans le sens, s'il y a deux cas de COVID dans la classe, par exemple, qui sont déclarés, la classe, un autre enfant, par exemple, qui est dans la même classe, devrait juste continuer d'aller à l'école, même affaire, no big deal, et s'il y en a d'autres qui l'attrapent de la COVID pendant... Ceux qui sont touchés vont arrêter d'aller à l'école, mais tous les autres vont continuer. Moi, j'avoue que j'essaie de me mettre dans la peau d'un parent, puis je trouve ça un peu fou.
Oui, un peu fou. Et c'est surtout...
Je ne blâme pas entièrement le gouvernement par rapport à ça, là. La situation est folle et ils agissent aussi parce que c'est ce qui semble la meilleure position, mais comme c'est juste l'anxiété pour les parents doit être absolument capoté. C'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. J'ai juste
oui, effectivement, je vais juste, sans aucun lien, aucun, me diriger vers un article de Vincent Larrain du Journal de Québec qui nous apprend que le gouvernement du Québec n'a pas écouté ses experts sur l'administration rapide d'une troisième dose aux infectés. Donc, on a maintenant des preuves, des échanges de courriels voulant que le gouvernement du Québec a pris une décision qui allait à l'encontre d'une recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec. Donc, il s'agit d'une décision gouvernementale qui se basait sur d'autres rapports, sur d'autres contextes, sur le Center for Disease Control des États-Unis et sur le Centre canadien national de l'immunisation, entre autres. Pour décider de donner une troisième dose de vaccin aux personnes qui avaient déjà reçu, qui avaient déjà contracté la COVID-19, donc de devancer ces doses-là plutôt que d'attendre un certain temps. Donc on commence à avoir des preuves qui sortent qu'il y a eu des décisions gouvernementales qui s'appuyaient non pas qui s'en allaient à l'encontre des recommandations des experts que le gouvernement mandate pour lui donner des recommandations, justement.
Ouais.
Donc, c'est assez spécial. On va terminer ce bilan, ce tour d'horizon de la COVID-19, des nouvelles coronavirales, en disant que le gouvernement s'apprête à lever le couvre-feu. Donc, c'est une nouvelle c'est une mesure qui avait été mise en place à partir de la soirée du 31 décembre. Elle avait été annoncée le 30 décembre par François Legault. Donc, on devrait avoir aujourd'hui dans la conférence de presse quotidienne la mise à jour concernant ce couvre-feu. On se souvient que le couvre-feu était particulièrement impopulaire et également qu'il n'y a jamais eu aucune décision, aucune recommandation scientifique pour l'imposition, aucune preuve scientifique n'a été faite que le couvre-feu de manière générale a un quelconque impact sur la COVID-19. La seule preuve est qu'il continue à marginaliser des communautés déjà à risque. On pense aux itinérants, aux personnes à plus faible revenu et aux communautés immigrantes, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est assez spécial de voir le gouvernement Legault faire volte-face sur ce sujet-là.
Moi, j'ai une question, Guillaume, un peu de registre coin de table. mais dans un contexte où est-ce que... Comment dire? Il n'y a pas grand-chose à faire dehors. En l'absence de... Comme le couvre-feu change quoi dans le style de vie des gens at large en ce moment-là? Comme dans le sens... Où c'est qu'il allait après 22 heures?
Ben c'est ça, c'est là,
en masse,
ils vont pouvoir ouvrir peut-être qu'ils vont rouvrir les restaurants, peut-être qu'ils vont rouvrir les bars, ça m'étonnerait.
C'est une autre mesure, c'est un autre patente complètement. Ma question c'est dans les circonstances telles qu'elles existent, où est-ce que le couvre-feu empêchait les gens d'aller essentiellement, genre prends pas ta marche après 22 heures. C'est ça?
Peut-être, ou va pas rendre visite à ton ami, va pas rendre visite à ta grand-mère, déplace-toi pas. Et en fait, c'était surtout...
Je connais pas beaucoup de grand-mères qui sont encore sur le party après 22 heures, personnellement. Là, mais...
La mienne est capable de l'être quand même. c'est surtout, en fait, ça a mené à beaucoup de troubles avec des itinérants, alors qu'on sait qu'on en a déjà au moins un qui est mort cette semaine à cause du grand froid parce qu'il dormait dehors.
Je pense pas qu'ils vont être dehors parce qu'ils aiment pas la COVID puis le couvre-feu puis c'est de la résistance, de la désobéissance civile, là, en tout cas.
Voilà.
À quand il fait moins 38, je sais pas, là.
On va prendre une petite pause publicitaire et musicale et on vous revient tout de suite après avec d'autres nouvelles. On va s'intéresser un petit peu plus à la politique Claire Samson qui ne se représentera pas pour le Parti conservateur du Québec. Vous écoutez toujours Un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flot des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
mes soifs des orages. Mais toi tu bois ce qui se boit et tu te fous de la nature. Tu m'as pas dit que tu aimais aller regarder les étoiles. Les animaux que je connais ont peur que ne leur fasse mal. Mais toi, tu aimes les planètes et tu crois qu'elles te regardent. Mais toi, tu aimes les planètes et tu aimerais qu'elles te gardent. Tu m'as pas dit que tu rêvais souvent à un atterrissage.
À l'antenne d'Un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. On écoutait Les animaux de Claude Pelgag et on va revenir en actualité. On s'en va en actualité politique, Adam, parce que on va aller écouter, en fait, on va aller s'interroger sur le cas de Claire Samson qui a annoncé aujourd'hui qu'elle ne se représenterait pas, elle qui est seule députée du Parti conservateur du Québec.
Ben, je trouve que c'est intéressant le cas de Claire Samson, puis vous faites juste ses moves dans le dernier mandat, parce qu'on sait, tout commence, une apparence de chicane, comme on dit parfois une apparence de conflit d'intérêts, il y a une apparence de chicane, on n'a pas vent de la chicane réelle, mais on sait très bien que Mme Samson voulait être ministre de la Culture, ça s'est pas produit, finalement, on a présumé d'une certaine grogne envers le gouvernement, qui n'a jamais été vraiment avouée, mais essentiellement, Mme Samson, qui a des problèmes de santé importants, là, là, depuis plusieurs années, qui lui ont d'ailleurs, suite à sa non-nomination comme ministre, causé des mois d'absence du Parlement, a décidé que, ben là, ça va faire, j'ai 66 ans, j'ai des problèmes de santé, j'ai plus envie de faire de la politique, je vais prendre ma retraite. Ce qui est une manière très non-conflictuelle de décider de dire au revoir et de quitter la vie politique. Dans la même veine que j'ai besoin de passer plus du temps avec ma famille, personne va s'obstiner avec ça et personne va penser que ça, c'est pour envoyer chier qui que ce soit. Puis du point de vue du Parti conservateur, c'est pas non plus entièrement une perte dans le sens où, sans vouloir, c'est sûr que c'est une... En tout cas, sans me prononcer sur la valeur ou de la présence ou de l'absence de Mme Samson, là n'est pas le point. L'objectif, c'est que ça va être difficile pour eux de faire élire des députés, de toute façon, à la prochaine élection, mais j'aimerais dire que l'apport de Mme Samson est déjà fait, dans le sens où le fait qu'ils aient eu, pendant la période qu'ils vont avoir eu, pendant cette moitié de mandat, une députée à leur nom, va faire que M. Duhaime va être invité à tous les débats des chefs, va faire que le Parti conservateur est considéré comme un vrai, en guillemets, parti pour la campagne à venir. Et je pense que dans la tête d'Éric Duhaime, ça vaut pas mal plus cher que, par exemple, si on imagine un monde parallèle où Claire Samson s'était présentée et avait été la seul député élu du Parti conservateur à l'élection de 2022. Donc, en somme, je pense qu'elle gagne un peu son pari et qu'elle finit son histoire avec une apparence de pas de chicane avec qui que ce soit et fait juste comme j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait une passe à palette à mon pote Éric Duhaime, puis moi j'ai bye bye, bonne fin de bonne, ayez du fun essentiellement là,
essentiellement ayez
parce
du
que
fun.
C'est ça. La raison pourquoi elle a été... Au départ, elle avait donné 100$ au Parti conservateur du Québec parce qu'elle trouvait qu'Éric Duhaime était quelqu'un de bien sympathique qui méritait son encouragement. Puis c'était même pas dans le but de transfuger vers le Parti conservateur qu'elle avait fait ça.
Ça, c'est très drôle parce qu'elle n'y est même pas pensée à ça. Ça fait juste beaucoup rire.
Je pense que dans sa tête, elle le voyait peut-être comme un petit scout avec sa boîte de chocolat. « Bonjour, madame, voulez-vous m'acheter un chocolat puis un calendrier? » Puis elle a dit « Moi, t'as encouragé, pauvre petit gars. » Fait que elle a continué son encouragement en lui donnant essentiellement une belle clé dorée qui l'amène vers tous les débats des chefs aux prochaines élections. Puis je pense qu'elle va se dire « Ben voilà, c'était ça ma contribution. Une petite tape dans le dos. Bonne chance, mon ami. »
Voilà. Et elle s'est également assurée un siège, en fait, un ticket elle-même vers toutes les questionnaires de Gilles d'Herbe à venir.
Un honneur que tout le monde convoite.
Un honneur que tout le monde convoite comme étant la première députée à siéger sous la bannière du Parti conservateur du Québec depuis 1936 quand même.
Clairement, puis tu sais, elle termine... Clairement, clin d'œil.
1934, désolé.
Elle termine tout ça avec... Justement, elle va avoir joué son rôle dans un chapitre... Pour l'instant, encore insolite de l'histoire du Québec. On est encore on parle d'un parti très mineur et il y en a eu plein, des partis comme ça qui sont venus et qui sont partis. Mais voilà, c'est le premier chapitre. Son nom en fait clairement partie.
Oui, effectivement. Je pense que de mémoire, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a 5 partis différents qui sont représentés à l'Assemblée nationale du Québec.
Je ne serais pas tenté de te contredire. Je crois que ça a beaucoup de sens.
Voilà. Donc, c'est assez intéressant, mais on voit que ça se place déjà tranquillement les pions pour l'élection générale à venir du 1er octobre 2022. On va avoir un avant-goût définitivement lors de l'élection partielle de Marie-Victorin, qui n'est pas encore officiellement déclenchée, mais pour laquelle on sait déjà que plusieurs partis travaillent le terrain activement.
Écoute, je suis peut-être assoiffée de nouvelles politiques qui ne parlent pas entièrement du coronavirus, mais comme... À quel point il faut s'emmerder comme étudiant de Sciences Po pour être excité pour une partielle, mais j'ai hâte. Je pense que ça va être le fun. Je pense qu'il va y avoir des débats intéressants, puis je pense que ça va nous donner peut-être un avant-goût de ce qui va se passer dans la campagne plus large. Et voilà, je garde mon œil rivé sur Longueuil avec grand intérêt.
Pour une fois qu'on garde son œil rivé sur Longueuil, on va se déplacer un petit peu, on va revenir un petit peu plus proche de la COVID-19. Juste vous glisser en passant qu'il y a un excellent, vraiment excellent, excellent article de Stéphane Baillargeon dans Le Devoir qui s'intitule « Drame dans les CHSLD, à qui la faute? » qui est essentiellement une étude philosophique en citant beaucoup Hannah Arendt la responsabilité collective versus la responsabilité individuelle. Tout ça en prévision du témoignage très, très, très attendu de Marguerite Blais, ministre responsable des aînés au gouvernement de la Coalition Avenir Québec, devant la coroner Jeanne Kamel, qui mène son entête pour savoir pourquoi est-ce qu'on a eu 5000 personnes qui sont mortes dans les CHSLD lors des 6 premiers mois de la pandémie. C'est vraiment énorme.
S'il y a beaucoup de têtes qui sont peut-être tombées à la suite de ce scandale-là puis de cette tragédie-là, en fait, il y en a une qui a brillé par à quel point elle a été épargnée et un peu tassée des coups de feu, puis c'est vraiment celle de la ministre des Aînés, parce que quand le gouvernement disait d'un coin de la bouche c'est pas de notre faute la situation dans les CHSLD, c'est le gouvernement libéral, puis c'est toutes les années de négligence gouvernementale, et de l'autre coin de la bouche, il y avait parlez-moi pas de la ministre Blais, parce que s'il y a une personne qui était là, ben c'était elle, pas de manière ininterrompue, mais pendant une partie pas mal considérable.
Oui, elle était ministre des Aînés sous le gouvernement de Jean Charest.
Mais moi, par contre, c'est ça. Si je peux lui donner encore une fois, nuancer un peu la question, je lui donne. J'accepte son. Elle a déjà dit, je pourrais pas vous dire quand exactement, mais elle a déjà dit écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, c'était le combat de ma vie, essentiellement. Là, mais le gouvernement refusait de m'écouter. Je suis prêt à croire ça, dans le sens où un gouvernement qui décide que quelque chose n'est pas prioritaire, c'est capable de fermer la trappe de ses ministres sans problème. Toutefois, quand on cherche un responsable, le principe de la responsabilité ministérielle donne la responsabilité au ministre.
Mais donne également la responsabilité partagée à tous les ministres. S'ils n'ont pas écouté quelqu'un, c'est la faute à tout le monde.
C'est ça, dans le sens que s'il est vrai qu'elle s'est faite lanceuse d'alerte au sein de son ministère, du cabinet de Jean Charest, puis qu'elle a dit « Écoutez, la situation dans les CHSLD, c'est grave, ne m'ignorez pas », et qu'ils l'ont ignoré, la faute est à eux.
Le cabinet de François Legault également, c'est ça qu'elle dit.
Mais j'ai pas l'impression que ça c'est très crédible comme notion, parce que les échos qu'on a de l'interne et du terrain, c'est que Mme Blais était pas très au fait des dossiers, puis qu'elle aime beaucoup faire du terrain, serrer des mains. Avant la COVID, c'était vraiment comme une espèce de rockstar, tu sais, là, du CHSLD ou de la maison de personnes âgées. Tu sais, elle allait chanter des chansons avec les personnes âgées, puis les gens de cette génération l'apprécient beaucoup parce que c'était une personnalité de la télé. Mais l'affaire, peut-être un peu moins agréable, c'est que on la voyait peut-être plus comme une super députée que comme une
véritable
ministre à part entière, dans le sens où elle gardait pas nécessairement un regard de plus large ou plus proactif sur le milieu.
Oui, effectivement.
Ça, c'est toujours plate, parce que j'imagine que de son point de vue, c'est pour lui donner encore une fois, puis essayer de se mettre un peu dans sa tête, j'imagine que de son point de vue, elle se dit « Ben moi, j'ai travaillé, j'ai été proche du monde, j'ai été proactive, j'ai parlé aux gens. » Parfois, faire de son mieux, ce n'est pas suffisant.
C'est une constatation très, très triste, par contre. Mais ça ne nous empêche pas de toujours vouloir faire de notre mieux.
Oui. j'ai juste une idée dans la tête du slogan de campagne « Faire plus, faire mieux ».
Faire
plus que son mieux.
Faire plus que son mieux. On reste en politique. On a eu plusieurs réactions à l'annonce d'avant-hier du gouvernement de M. François Legault d'avoir une contribution santé, dans le fond, taxer directement les personnes qui refusent d'être vaccinés. On a déjà eu plusieurs réactions de l'opposition hier, mais encore aujourd'hui, ça fuse. Adam, tu as gardé un œil là-dessus pour nous.
Je sais pas. Il y a beaucoup de commentaires. Je pense que tout le monde se questionne par rapport à est-ce que ça remet en question le principe de les soins de santé universels. Puis est-ce que c'est donc nuisible, mettons, à la, je sais pas, à notre vision de la société, est-ce que c'est pas comme inéquitable? Puis on a fait des, j'ai vu un parallèle qui était dressé avec la cigarette. T'sais, on ne cherche pas plus cher quelqu'un qui a un cancer du poumon causé par son tabagisme que quelqu'un qui a un autre cancer du poumon. Mais la réalité, c'est que les cigarettes sont fortement taxées. Là, donc...
Oui, mais c'est ça, sauf qu'on taxe à la source. Donc, le choix de fumer est taxé, mais une fois que tu as un problème, on va pas t'empêcher. On ne va pas privatiser le système de santé. On va pas ne pas te soigner. On va pas virer comme les États-Unis, mettons.
Mais on dit pas qu'on va pas les soigner. Mais le point, c'est que moi, je trouve que c'est vraiment genre mon opinion. Je me mets sur ma boîte à savon et ou comme... C'est mon opinion personnelle, mais j'ai l'impression que la vaccination obligatoire, tant qu'à avoir un questionnement moral, éthique quant à l'équité et les droits de l'homme, ayons ce débat sur la véritable question qui aurait un véritable impact, à mon avis, qui est la vaccination obligatoire.
Oui, très
parce
d'accord
que
avec toi.
Je
parce
suis
que...
très contre l'idée d'avoir essentiellement un opt-out où tu peux juste faire payer 200$ et ne passer pas go, genre, pour pas se faire vacciner. Parce
et
que
même
c'est pas
si
ça
c'était
but,
2000$.
Même si c'était 1 million, le but, c'est que c'est pas ça le principe. Tu payes pas pour avoir le droit de non vacciner.
Non, c'est ça. C'est, même si c'était 2000, 3000$, ce qui est potentiellement ce que ça va être.
Ça va juste vouloir dire, il y a toujours des gens riches pour qui 2000, 3000$, ce sera pas beaucoup.
Oui, et il y a des gens pauvres pour qui vont peut-être faire ce choix-là et se retrouver dans une merde noire à cause de ça.
Mais l'avenir me dira si j'ai raison, mais j'ai l'impression que d'empêcher les personnes non vaccinées d'avoir accès à la SAQ, à la SQDC, d'avoir accès à plein de choses sociales, c'est plus prohibitif et plus désagréable que d'avoir à payer potentiellement.
Oui, effectivement, on sait qu'on a une mesure qui s'en vient qui va demander le passeport vaccinal pour les magasins à grande surface. On pense au Canadian Tire, on passe au Walmart, entre autres, les petits magasins ne seront pas taxés, mais les magasins grandes ne seront pas imposés par cette mesure, mais les grands magasins pourraient l'être. Ça commence à être plutôt désagréable pour quelqu'un qui n'est pas vacciné.
Oui, mais moi, un des aspects que j'ai trouvé intéressant puis qui me semblait un peu inédit par rapport à comment est-ce qu'on regarde la question des non-vaccinés jusqu'à maintenant, c'était le témoignage peut-être anecdotique d'une personne qui disait « Moi, j'ai travaillé avec les non-vaccinés » c'est pas vrai que c'est tous des anti-vax purs et durs. Beaucoup de gens sont issus de l'immigration, sont des personnes marginalisées de toutes sortes de manières et ils ont besoin d'aide. Dans ce cas-là, si toutes les personnes qui sont encore non vaccinées ne sont pas toutes non vaccinées par principe, mais bien pour d'autres raisons, la manière de s'assurer d'augmenter le pourcentage de vaccination, ce serait pas de faciliter l'accès au vaccin. T'sais. Est-ce que le problème, c'est un problème administratif des gens qui n'ont pas de carte d'assurance maladie, qui ont de la misère à prendre des rendez-vous, comme... T'sais, si on ne compose pas avec une population contre le vaccin, mais bien une population incapable de se procurer le vaccin, on n'a pas le même problème, puis on devrait pas regarder les mêmes solutions.
Non, mais je pense qu'on a une je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on a une population qui est mixte là-dedans. On a fort probablement une population qui est réticente à être vaccinée. Donc plusieurs personnes qui ne veulent pas être vaccinées par idéologie, mais aussi probablement une bonne partie de la population là-dedans qui est incapable, que ce soit parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, parce qu'ils n'ont pas les moyens technologiques de prendre rendez-vous, parce qu'ils n'ont pas accès dans leur secteur à des... À des centres de soins parce que. Donc, il y a probablement une partie qui est pas capable et une partie qui veut pas, mais je pense pas que d'imposer tout le monde comme s'ils voulaient pas, ce soit la solution. Je pense pas que d'imposer tout le monde comme s'ils étaient pas capables, ce soit la solution non plus. Je pense qu'il va falloir quelque chose de plus complexe et nuancé que ça. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est vers là que s'en va le gouvernement.
Non, mais tu sais, je sais pas. Moi, je me dis comme citoyen, un truc que je commence à sur lequel je commence à me questionner, c'est n'y a-t-il pas une sorte de tabou social qui s'installe au sujet du vaccin, dans le sens où on dépeint les gens qui ne sont pas vaccinés de plus en plus comme des infréquentables? Donc, l'idée même de, par exemple, discuter sur un appel Zoom de famille de qui est contre le vaccin, qui est pas vacciné, ça devient tabou. T'sais, ou comme quelqu'un, par exemple, je connais quelqu'un qui sa coiffeuse n'est pas vaccinée. Puis cette personne-là, qui est très pro-vaccin, qui a tout fait pour se faire vacciner, vacciner toute sa famille, ses parents et tout, n'est pas capable d'avoir cette discussion-là ou d'arrêter de fréquenter cette coiffeuse-là parce que c'est son choix personnel, mais tu sais, dit avec un ton de malaise profond. Donc, je sais pas. Tu sais, on a beaucoup parlé de de les démoniser, ça va les radicaliser, les forcer, les faire que ces gens-là ne s'identifieront plus au gouvernement, tu sais, essentiellement comme les amener vers dans les bras de l'extrême droite, selon certaines personnes, si on entend certaines personnes. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que ça l'amène surtout ces gens-là vers le silence, la solitude, les conforter dans leur opinion. Et comme les Québécois ont tendance à le faire, à juste comme ignorer le problème par politesse.
Ouais.
Puis ça, j'ai l'impression que c'est un problème. Fait que, tu sais, je sais pas, ouvrir un dialogue sur le vaccin, est-ce qu'il est trop tard pour dire qu'on peut encore en parler? T'sais, ou est-ce qu'on est vraiment rendu comme dans un point où est-ce qu'on doit présumer, quand on discute du vaccin, que tout le monde autour de la table est toujours vacciné? T'sais? Statistiquement, probablement, mais il faudrait qu'on arrête de parler des non-vaccinés comme des gens qui sont pas dans la salle. T'sais.
Non, effectivement, parce qu'ils sont dans la salle. Même si c'est une personne sur dix, c'est beaucoup. Et il y a toujours une possibilité qu'il y en ait autour de la table, que ce soit des gens qui ne soient pas vaccinés, soit par choix, soit par problème.
Mais il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, puis je suis convaincue qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. En tout cas, j'ai des histoires anecdotiques, là. Ça vaudra ce que ça vaudra, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, pour qui ce n'est pas une conviction profonde, une conviction forte, mais ils ont dit c'est le moment de ma tranche d'âge, mais je vais attendre, puis là, toutes sortes de petits motifs. Je vais attendre le vaccin québécois, je vais attendre que ce soit plus testé, je vais attendre que ce soit plus projet chez nous, je vais attendre qu'il y ait moins de monde, je vais attendre que les gens plus importants, qui sont plus exposés, life fait. Puis là, finalement, de fil en aiguille, c'est un peu comme, je vois ça un peu comme les gens qui finissent par ne pas voter, qui annoncent leur intention de vote, qui disent qu'ils vont voter pour tel truc ou qui hésitent entre telle puis telle chose, qui font partie des sondages, puis qui finalement, fait pas beau, m'a resté chez nous. Puis finalement, comme on se dit, je vais peut-être juste continuer ma vie, puis ça va pas paraître, puis je vais pas en parler, puis ça sera ça, mais le problème avec ça, c'est que ces gens-là continuent de potentiellement contracter le virus et contribuer à la mutation et la transformation du virus et à perpétuer la pandémie. Mais je suis convaincue que les gens se disent « je prends pas de risque, je fais attention, je reste chez moi ». Tu sais, je pense que cet espace-là, il existe. Est-ce qu'on se dit « je ne veux pas contribuer au problème, mais je me suis pas encore fait vacciner ». Mais tu sais, je pourrais me faire vacciner, là, c'est juste que c'est pas encore arrivé.
Voilà.
Je verrais des gens faire ce grand écart idéologique n'importe quand. J'ai des idées en tête de personnes que je connais. Et je suis sûre que vous aussi, chers auditeurs, vous en avez probablement des personnes dans votre vie que vous dites « mon oncle, ma tante, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a juste pas encore eu le temps. » T'sais. Mais si c'est pas une prise de position forte, c'est peut-être juste une bonne idée de...
C'est peut-être une prise de position molle.
Oui, une prise de position molle, exact. Une absence de décision qui cause ça, puis... Voilà.
on va voir ce que ça va donner. On va voir. On va terminer notre émission, Adam, si tu le permets, en parlant un petit peu de politique municipale. Tu le sais, c'est mon dada quand même.
C'est vrai.
Et c'est particulièrement palpitant présentement à Québec. On a 4 partis représentés à l'Hôtel de Ville. Ça donne que hier, Bruno Marchand, maire de Québec, était à la semaine des 4 juillet. Donc, il a passé une heure.
Que cette émission existe encore me fait rire. Juste, le nom est incroyable.
Voilà. Mais le point, c'est que il était en entrevue avec Julie Schneider et c'est très, très intéressant de voir que lui était de ce côté-là, du côté un petit peu people, et le moment très intéressant était qu'il a dû... il a joué à vérité et conséquence. La conséquence étant de devoir boire du café, parce que... Il boit pas de café.
Pauvre lui d'avoir été forcé de boire du café.
Oui, non, mais c'est ça. Il pouvait boire du café pour ne pas répondre à certaines questions. Il a donc décidé de ne pas répondre à la question de savoir s'il était pour ou contre le troisième et de ne pas répondre à la question savoir s'il était d'accord avec le ministre des Transports qui dit que le troisième lien est un projet environnemental.
C'est quand même habile de sa part parce que je pense qu'il sait que les gens qui écoutent la semaine des 4 juillet, c'est pas les gens nécessairement les plus ardemment contre le troisième lien. Je fais une présomption ici.
Je fais une présomption. mais je trouve ça très, très drôle de voir que, justement, cette population-là qui écoute la semaine des 4 juillet n'est peut-être pas son public habituel, le public auquel qu'il s'adresse, mm-hmm. qu'il y a un public un petit peu plus éduqué, un petit peu plus bourgeois, un petit peu plus centre-ville, on va dire ça comme ça, dit-on, avec nos foulards et notre appartement au centre-ville. Mais de l'autre côté, le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, était en entrevue avec Radio-Canada, avec Le Soleil, pour se présenter, dire « ben j'existe, on est là, on va être là pour le peuple, on va être là pour défendre les intérêts du citoyen. »
Dire « on va être là pour défendre le peuple » juste après avoir dit « j'existe », c'est un stretch, mais d'accord.
c'est
tant mieux, je suis content pour lui, c'est bien.
Oui, mais c'est ça. Mais on voit vraiment que après un automne de la conciliation à l'Hôtel de Ville, vraiment, la collaboration était très importante. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu plus une démarcation idéologique. L'opposition veut se trouver une image de marque. Ils vont d'ailleurs bientôt annoncer leur changement de nom. Ils ont fait appel à une firme de communication pour se définir une nouvelle image de marque.
Ça semble toujours tellement naturel quand on l'annonce comme ça. C'est comme j'ai cherché qui j'étais, je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit qui j'étais.
Voilà, donc il devrait y avoir un nouveau logo et un nouveau nom pour Feu Équipe Marie-Josée Savard, qui ne sera pas Équipe Claude Villeneuve. Mais on sait maintenant que dans les priorités de Claude Villeneuve, il y a... combattre la pollution de l'air dans Limoilou et de...
C'est un enjeu brûlant, là.
C'est un enjeu brûlant et également de... d'écouter plus les citoyens avant d'imposer une rue partagée pour le tramway. Donc, ce qui est assez...
c'est comme gauche-droite un peu comme...
Oui, c'est un petit peu gauche-droite. Donc, c'est assez intéressant comme enjeu, comme stretch idéologique également.
J'ai le goût de dire que c'est un peu ça la tendance en général en politique municipale à Québec. On a un peu... Est-ce que s'il y a des gens qui prennent des décisions importantes dans les partis municipaux en ce moment, écoutez ceci, mais ne serait-il pas une bonne idée de plutôt s'afficher comme clairement à gauche ou clairement à droite, comme par exemple le fait Transition Québec ou Québec 21 sur presque tous les enjeux, comme ça va faciliter, dans un contexte où on a de la difficulté à différencier les offres de partis, ça serait bien de savoir pour qui et quoi chaque parti est vraiment, tu sais, c'est d'avoir autant de partis qui sont